RFI, 9h à Paris, 8h en temps universel. Et le journal avec Juliette Pietraszewski.
Merci Julien, bonjour à tous. À la une de ce journal, les résultats des élections législatives en Géorgie. Le parti au pouvoir l'emporte, annonce la commission électorale. Le rêve géorgien remporte ainsi 54% des voix. Deux des formations d'opposition refusent de reconnaître les résultats. On en parle dès le début de ce journal. En Bulgarie, 7e législative en 3 ans. Le pays tente de sortir de nouveau de l'impasse alors que les partis n'arrivent pas à se mettre d'accord pour former un gouvernement. Au Proche-Orient, au lendemain des frappes israéliennes en Iran et sur des cibles militaires, Téhéran parle de dégâts limités et de 4 militaires tués sur son sol. En parallèle, au Liban, un nouveau raid israélien dans la banlieue sud de Beyrouth ce dimanche matin, annonce de l'agence de presse nationale libanaise ANI. Au lendemain des législatives en Géorgie, les résultats finaux de l'élection sont tombés. Le parti au pouvoir l'emporte, annonce la commission électorale. Selon les résultats, le rêve géorgien remporte ainsi 54% des voix, tandis que 4 partis et coalitions d'opposition entrent au Parlement, cumulant ensemble 37% des suffrages. L'avenir européen de ce petit pays du Caucase semble s'éloigner. Le scrutin a été perçu par beaucoup comme crucial pour l'avenir du pays, entre un futur européen ou plus tournée vers la Russie. Deux des formations d'opposition refusent de reconnaître les résultats et dénoncent une campagne électorale où le parti au pouvoir aurait eu recours massivement aux ressources administratives et aux pressions en tout genre pour récupérer les voix des Géorgiens. Le taux de participation a été de 58%, ce qui est un des plus hauts observés depuis une dizaine d'années. Régis Janté.
Avec 54% des suffrages, selon les résultats désormais officiels, le rêve géorgien sort vainqueur du scrutin. Une victoire qu'il célèbre en affirmant avoir reçu une confortable majorité, mais très loin de la majorité constitutionnelle, à 75%, qu'il disait viser. Ce samedi après-midi encore, le parti au pouvoir, à travers ses déclarations et les sondages qu'il rendait publics, disait aussi que seuls 2 partis d'opposition entreraient dans le futur Parlement, ce qui devait considérablement renforcer son nombre de sièges dans l'Assemblée, compte tenu de la règle de la proportionnelle intégrale. Au final, le rêve géorgien va devoir partager les sièges avec 4 autres partis et coalitions d'opposition. Selon ses résultats officiels, le parti au pouvoir devrait occuper autour de 60% des 150 sièges de députés. Les 40% restants étant partagés entre ses opposants, tous signataires de la charte pro-européenne proposée par la présidente Salomé Zourabichvili. 2 des 4 formations d'opposition refusent de reconnaître les résultats, les 4 promettant d'aller maintenant dans la rue pour y défendre leur vote. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
En Bulgarie, les citoyens verront-ils la fin de l'impasse politique dans le pays? C'est la question qui se pose aujourd'hui alors qu'ils se rendent aux urnes pour les 7e législatives en 3 ans. Les partis n'arrivent pas à se mettre d'accord pour former un gouvernement et de multiples divisions politiques continuent de fragmenter l'espace politique. Autre inquiétude, la lassitude des électeurs. Il y a 5 mois, seulement 34% d'entre eux s'étaient déplacés aux urnes. Le niveau le plus bas depuis la chute du communisme il y a 35 ans. Les précisions de Damien Vodenicharov.
Cette législative en si peu de temps, 9 élections si on prend en compte les municipales et la présidentielle, c'est du jamais vu. Les taux de participation sont au plus bas, les sociologues s'attendent à une 30aine de %. Pourtant, le Parlement a 7 partis représentés, pourrait s'effriter encore avec 8 groupes, voire 9. Le mouvement des droits et libertés, qui a le quasi-monopole du vote musulman, s'est scindé en 2 après une lutte intestine entre les grosses pointures du parti. L'extrême droite est également loin de faire front commun avec un nouveau parti venu de nulle part, grand qui fait de l'ombre aux vétérans pro-russes de Renaissance. Le Parti socialiste connaît une crise d'identité grave qui lui a coûté 8% en 3 ans. Même la droite réformiste n'est plus aussi unie que lorsqu'elle descendait dans la rue contre le Premier ministre Boyko Borisov il y a 3 ans. Celui-ci reste d'ailleurs le moins touché par ce déluge d'élections. Son parti Gerb est souvent en première place avec 24 ou 25%. Trouver des partenaires pour former une majorité stable et élire un gouvernement s'avère beaucoup plus compliqué. Damien Vodenicharov, Sofia, RFI.
Autre pays qui vote pour ses députés ce dimanche, la Lituanie. Second tour des élections législatives pour ce pays balte. Second tour qui devrait porter au pouvoir une coalition de centre-gauche au détriment des conservateurs en place et dans un contexte marqué par des inquiétudes sécuritaires face à la Russie pour ce pays qui est aussi membre de l'OTAN. Pendant la campagne électorale, tous les principaux partis lituaniens étaient d'accord sur la nécessité de soutenir fermement l'Ukraine et de maintenir, voire d'augmenter le budget de la défense, budget estimé à environ 3% du PIB, au-delà de l'objectif de 2% fixé aux membres de l'Alliance Atlantique. Au Japon, les citoyens votent également aujourd'hui un scrutin législatif anticipé déclenché par le nouveau Premier ministre et ce dernier, Shigeru Ishiba, pourrait perdre sa majorité au Parlement. La vie chère, mais aussi un scandale politico-financier qui touche le parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate, laisse penser que le gouvernement n'obtiendra pas la majorité absolue. Par ailleurs, les moins de 30 ans sont très peu mobilisés pour cette élection. Le Proche-Orient, à présent, au lendemain de frappes israéliennes en Iran, Téhéran affirme avoir le droit et le devoir de se défendre. Alors que l'armée israélienne avait ciblé des sites militaires, l'Iran annonce également 4 morts sur son sol. Israël poursuit aussi son offensive à Gaza et au Liban. Dans la banlieue sud de Beyrouth ce dimanche matin, un nouveau raid israélien a été annoncé par l'agence de presse nationale libanaise ANI. L'armée israélienne avait appelé les résidents de 2 quartiers de la capitale libanaise à évacuer leur logement. Sur le front libanais, Israël fait également état de 80 projectiles tirés par le Hezbollah depuis le Liban. Depuis le début de cette opération, plus de 1600 personnes ont été tuées au Liban, d'après un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Et plus d'1 300 000 personnes se seraient également déplacées dans et à l'extérieur du pays depuis le début de cette offensive israélienne. Au Gabon, la campagne électorale pour le référendum constitutionnel s'ouvrira le 7 novembre prochain et elle prendra fin le 15 novembre, soit la veille du scrutin. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse en fin de semaine. Le ministre a aussi annoncé que les observateurs internationaux sont autorisés à observer ce scrutin. Pour rappel, ça n'avait pas été le cas lors des élections générales organisées en août 2020 par le pouvoir déchu. Yves-Laurent Goma.
Cette consultation cruciale pour notre pays sera ouverte aux observateurs internationaux pour renforcer la crédibilité de notre processus électoral, a notamment déclaré le ministre. Hermani Mongo a rappelé que c'est le président de la transition, Brice Clotaire Oligingema, qui s'est personnellement engagé à autoriser le déploiement des observateurs internationaux. Cette ouverture n'est toutefois pas un blanc-seing, a tempéré le ministre, qui rappelle que le déploiement des observateurs est régi par le code électorales qui encadrent leurs actions. Les ONG locales saluent une bonne décision. L'ancien régime avait verrouillé l'entrée au Gabon des observateurs et de la presse internationale qui souhaitaient couvrir les élections générales d'août 2023. Dans le chaos dans l'organisation, s'est soldé par le coup d'État d'il y a un an. Le 16 novembre prochain, les Gabonais auront le choix entre 2 bulletins. Le vert pour voter oui ou le rouge pour voter non au projet de constitution qui prévoit un régime présidentiel à la place du régime semi-parlementaire en vigueur. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Dernière ligne droite pour les négociations sur la biodiversité à Cali cette semaine. La Colombie organise en effet la conférence des Nations Unies, la COP16 depuis lundi. Et aujourd'hui plus précisément se tient le forum Business et Biodiversité. Si le bilan carbone des entreprises est de plus en plus pris en compte, leur empreinte biodiversité est souvent plus floue. Pourtant, l'effondrement de la biodiversité est une menace pour l'économie. La moitié du PIB mondial y est liée. Alors comment les entreprises prennent-elles en compte cet enjeu ? Illustration au près d'une marque de cosmétiques gourmande en fleurs, miel et autres ressources naturelles avec Pauline Glaise.
Guerlain ne divulgue pas d'indicateur général de son impact sur la biodiversité. Mais le parfumeur travaille à la certification de 50 filières de produits par l'Union pour un commerce bioéthique, assure Claire Coletti, directrice développement durable de la maison Guerlain.
On finance des écologues pour trouver localement avec un producteur comment utiliser moins d'eau, utiliser moins de pesticides. On finance aussi des passages en agriculture bio. On agit localement parce que l'agrégation des indicateurs biodiversité, c'est très compliqué.
La transformation des fleurs peut aussi avoir un impact. Aux Comores, la distillation de l'île Anguilang est source de déforestation.
On a financé un alambic qui a un fonctionnement hybride. Ça permet aux producteurs de moins recourir au bois pour faire chauffer cet alambic.
Guerlain n'a pas chiffré sa vulnérabilité au déclin de la biodiversité. L'entreprise affiche pourtant un fort taux de produits d'origine naturelle dans certaines de ses gammes.
Le changement climatique, la surexploitation ou la prolifération d'espèces invasives peuvent effectivement avoir des conséquences sur la disponibilité de ces matières premières naturelles et aussi sur leur qualité.
Le cas échéant, les molécules de synthèse pourraient être une alternative. Pour l'instant, le choix des matières premières reste guidé par la créativité des parfumeurs.
Explication de Pauline Glaise, RFI, il est 9h10 à Paris.